Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Vivre sa foi quand on est en situation de handicap, c'est le quotidien de nombreux catholiques qui tentent de se faire une place dans l'Église. Des associations les aident et leur permettent de réaliser leurs rêves. C'est le cas de l'OCH, l'Office chrétien des personnes en situation de handicap. On en parle dans votre émission Vivante Église ce matin. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Burali. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Et Marin Perrier, vous êtes son accompagnateur. Bonjour Marin.
Bonjour Timothée.
Est-ce que, déjà Cécile, vous pouvez vous présenter à nos auditeurs?
Alors bonjour à tous les auditeurs. Moi je m'appelle Cécile Burali, j'ai 35 ans. Je suis non-voyante de naissance, voilà. Ensuite, je suis également musicothérapeute. Donc, depuis l'enfance, je pratique le piano et également la flûte à bec un peu plus tard. J'ai commencé un peu plus tard la flûte à bec quand j'étais également au collège. Et puis, je dispose également de d'autres instruments tels que la sitar et d'autres instruments que j'utilise lors de ma pratique de musicothérapie. Voilà. Et également, donc... J'ai eu mon diplôme de musicothérapie en 2019. Voilà. Et avant d'avoir le diplôme, j'ai fait du bénévolat. Donc depuis 2014. En 2014, j'ai également pris des cours de flûte. Voilà. Suite à l'initiation que j'ai eue au collège. Et puis également, après 2019... J'ai commencé à travailler après avoir eu mon diplôme, à être payée dans différentes maisons de retraite. Mmh. Et également, là, depuis un an, je travaille à domicile, j'interviens à domicile chez une dame, là, une fois par mois. Voilà. Et donc, j'ai également des loisirs. Bon, les vacances, également, j'aime bien faire des promenades au centre-ville, voilà. Mmh.
Cécile, vous nous l'avez dit, vous êtes musicothérapeute. C'est quoi musicothérapeute? Qu'est-ce que vous faites au quotidien?
La musicothérapie, alors au quotidien, mais je donne la possibilité aux personnes âgées de continuer à conserver le maintien... pour sortir de l'isolement, c'est-à-dire leur permettre d'ouvrir des canaux de communication par le biais de la musique, et on est dans une relation de soins, donc de thérapie par la musique, en proposant diverses activités. Donc ça peut être de l'écoute musicale, on leur propose d'écouter de la musique, et également leur demander qu'est-ce qu'ils ont ressenti, donc des extraits musicaux, leur demander qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Également, on leur propose de pratiquer avec les instruments, d'accompagner les chansons qu'ils connaissent et de chanter aussi, des chansons qu'ils connaissent également, pour leur permettre de conserver leur mémoire. Également, de pouvoir... on est aussi un peu à leur écoute, mais c'est quand même nous qui faisons le planning des séances, musicothérapeutes. Voilà, et je travaille au secteur protégé, et puis je fais également de l'animation musicale. Donc l'animation musicale, c'est pas nécessairement que proposer de la musicothérapie, ça peut être aussi leur jouer des morceaux, de faire des petits concerts de piano occasionnellement. Donc ça, c'est plutôt à la maison de retraite de Crampel où je fais des concerts de piano. Mmh. Et après, la maison de retraite de Baziège, la maison de retraite de la Côte Pavée, là, c'est plutôt des séances de musicothérapie.
Et alors, ça marche, le soin par la musique? Alors, qu'est-ce que ça leur apporte, justement, à ces personnes?
Alors, ça leur apporte du bien-être, de la détente. Ça permet aussi de leur changer les idées du quotidien, parce que, bon, c'est des personnes qui ont quand même des difficultés, qui sont en EHPAD, donc il y en a certains qui peuvent voir leur famille, mais il y en a certains qui sont isolés. Donc ça leur apporte également du bien-être, de la détente, de la joie également de vivre. Et ça leur permet ça leur permet aussi de s'ouvrir à des musiques qu'ils connaissent et qu'ils connaissent pas forcément. Donc tout dépend en fait de ce qu'on leur propose, donc ça leur permet voilà de s'épanouir un petit peu et de sortir un petit peu de leur quotidien, de l'EHPAD, par rapport aux activités qui sont proposées en EHPAD.
Cécile Burali, on l'a dit au début de cette émission, vous êtes aveugle, est-ce que c'est de naissance déjà ?
Oui, je suis non-voyante de naissance.
Et justement, vous arrivez à percevoir des choses différentes avec la musique ?
Oui, alors c'est vrai que quand le fait d'être non-voyant de naissance, par la musique, avec la musique, j'ai appris la musique braille justement. C'est-à-dire que c'est... ça nous permet de lire la musique, lire les partitions en braille. Bon, en flûte, je fais essentiellement d'oreille. Mais par le passé, oui, j'ai eu une professeure qui m'a formée pour apprendre la musique braille, donc de pouvoir lire. Et la musique, j'ai développé l'oreille musicale, ce qui fait que j'arrive à entendre un morceau, par exemple, j'entends un morceau, et j'arrive à le reproduire ou de le travailler d'oreille pour le reproduire au piano ou à la flûte. Voilà, selon ce que j'entends. Et j'aime beaucoup, je suis sensible à la musique, ça a permis de développer ma sensibilité à la musique.
Quand il nous manque un sens, comme l'a vu pour vous, les autres sens sont exacerbés ? Ils sont beaucoup plus mis en éveil ?
Essentiellement, oui, l'auditif, les autres sens, oui. Je compense plus par les autres sens, mais surtout par ce que j'entends. Par ce que j'observe, par ce que j'entends... Par exemple, les gens voient le visage des uns et des autres. Ben nous, moi, en tout cas, je me fie beaucoup plus aux voix des gens. Je suis plus attentive aux voix des gens, leur intonation de parler. Voilà, on a une sensibilité différente quand on est non-voyant, mais on a quand même, on est sensible comme d'autres. C'est vrai qu'on a peut-être une plus grande sensibilité auditive.
Comment justement vous arrivez à gérer le regard des autres ? On sait que ce n'est pas forcément évident.
Alors, pour gérer le regard des autres, y a certaines personnes qui peuvent comprendre que le handicap, c'est... ils comprennent que les personnes sont en situation de handicap, mais des fois, par exemple, dans le bus, vous avez peut-être des gens, des fois, qui vous laissent la place, ou il y en a d'autres, on peut leur demander s'ils peuvent nous laisser la place, parce que des fois il y en a qui le font pas forcément tous naturellement, mais la plupart des gens le font naturellement. Ou par exemple quand on est obligé d'anticiper certaines choses, moi je sais que j'anticipe beaucoup les choses, ça me représente moins de stress. Alors que je sais que dans le monde des personnes voyantes, des fois il peut y avoir des personnes qui n'ont pas besoin d'anticiper autant que...
Ça demande une préparation, quand vous faites par exemple une sortie.
Ouais, parce que par exemple, si je dois le faire 2 jours à l'avance, si je sais 2 jours à l'avance, si je sais au dernier moment, je ne peux pas me permettre de prévoir les choses au dernier moment, parce qu'il faut que j'organise mon bibus, ou alors il faut que je demande dans mon entourage, ou alors aux auxiliaires des aveugles de m'accompagner. Par exemple, si je dois faire quelque chose qui n'est pas dans le quartier de chez moi, ou que je sais que je ne vais pas le trouver... que je ne vais pas trouver facilement quelque chose dans mon quartier, il faut que j'anticipe pour savoir tel jour je dois aller à un autre endroit. Ou alors, par exemple, pour faire une sortie, si c'est moi qui organise quelque chose, j'essaie d'envoyer le message bien avant pour demander. Parce que ça pourrait se faire au dernier moment, ça serait dans le stress. Et pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Je ne peux pas me permettre des fois d'avoir la réponse trop tard.
Donc, et, oui.
Et avec les transports, je dois organiser ça 2 ou 3 semaines à l'avance, le plus tôt possible, c'est mieux, pour être sûr d'avoir les transports. Donc c'est pour ça que quand il y a des fois des choses qui peuvent me mettre en état de stress, je ne m'engage pas si c'est par exemple quelque chose que je sais trop tard. C'est important. Et après... dans le passé, quand j'étais au collège ou quand j'étais...
Justement, on sait que c'est une période difficile. Comment vous avez réussi à vous construire avec cette petite différence ?
Justement, il y en a qui... Au collège, il y en a qui, des fois, qui faisaient des blagues pas très, très saines. Et ça a été, la période difficile. Malheureusement, c'était pas évident. Malgré ça, j'ai souhaité avancer et j'ai été intégrée depuis le CM2. Donc depuis que j'avais 10 ans, j'ai été intégrée. Et c'était important d'être passée par l'intégration scolaire quand j'étais plus jeune, depuis l'enfance, parce que ça me rend service. Et puis ça me montre que... D'ailleurs, je me sentais mieux. Hein. Je me sentais beaucoup mieux que quand j'étais dans les centres spécialisés. Et ça m'a permis justement d'évoluer, de pouvoir suivre la scolarité comme les autres. Bien sûr, il fallait que je passe par les centres spécialisés pour apprendre le braille, pour apprendre toutes les techniques de compensation. Mais après, j'ai également été en 2018-2019 en centre de rééducation à la RAMAV, à Nîmes. Ça, c'était après avoir été également, dans mon passé, quand j'étais plus jeune, dans un autre centre de rééducation où là, j'avais appris également des choses. C'est des centres de rééducation pour déficients visuels. Je suis allée également à Marly-le-Roi en premier, près de Paris, donc ça, c'était bien avant. Et également en 2018-2019 à Nîmes, à la RAMAV, où j'ai appris certaines techniques de rééducation.
Vous avez été accompagnée comme il faut, en tout cas, on peut le dire.
Voilà, j'ai également une auxiliaire de vie. J'ai également des amis autour de moi, donc voilà. Parce que bon, je peux faire également appel, je peux pas toujours faire appel à la même personne, bien que je fais appel à mes amis qui sont habitués à m'accompagner, mais je fais également appel aux auxiliaires des aveugles quand j'ai besoin. Et à mon entourage, à ma famille, voilà.
Comment vous arrivez justement à trouver cette force de vous battre contre les petites difficultés du quotidien? Et à toujours avancer, comme vous disiez tout à l'heure.
Bah, parce que j'ai la foi. On en reparlera quand vous allez m'interroger là-dessus.
Oui. Et
bah, parce que j'ai toujours voulu avancer, même si des fois, je n'y arrive pas. Parce que j'ai des gens qui m'encouragent autour de moi. Et puis, je n'ai pas voulu baisser les bras. Mais bon, c'est vrai que je suis passée par des périodes difficiles par rapport à tout ça. Mais je préfère... maintenant, j'essaie de m'affirmer de plus en plus sur certaines choses. J'ai pas peur de dire aux gens, même s'ils sont pas toujours d'accord avec moi, bah, de dire aux gens certaines choses, de pas toujours voilà, de pas toujours être en acceptation et de pas toujours comment dire ça, de pas toujours me laisser faire, quoi. Des fois, je suis d'accord avec les gens, mais des fois, quand je ne suis pas d'accord, je suis obligée de dire non et mettre un cadre à ce que je souhaite et ce que je ne souhaite pas. Parce que je préfère me faire respecter. Et du fait, des fois, d'être en situation de handicap, on doit montrer qu'on doit être respecté par les uns et les autres.
Et on ne sait pas marcher sur les pieds.
Voilà, on ne se laisse pas faire.
Mara, je me tourne vers vous. Vous êtes, on peut vous présenter comme l'accompagnateur aujourd'hui de Cécile. Expliquez-nous un petit peu comment déjà votre rencontre elle est née.
Alors notre rencontre est née par un projet de l'OCH qui s'appelle Ose la rencontre. Ce projet consiste à mettre en lien des personnes avec un handicap et des personnes valides qui vont les aider à réaliser leurs rêves. Donc concrètement, la manière dont on s'est rencontré avec Cécile... c'est le cadeau de mes 18 ans que m'a fait mon père. C'était de participer à ce projet. Donc, je me suis rendu sur le site de l'OCH sur lequel sont recensés tous les vœux des personnes en situation de handicap. Et j'ai trouvé celui de Cécile qui m'a beaucoup plu de par plusieurs aspects, parce que son métier, la musicothérapie, voilà, j'aime beaucoup la musique aussi. Puis voilà, j'ai trouvé que c'était un beau projet. Donc c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, et puis c'est l'OCH qui nous a mis en lien, voilà, et qui nous a accompagnés jusqu'à la réalisation de ce projet aujourd'hui.
Justement, parlez-nous de ce projet.
Alors donc ce projet, donc c'est le rêve de Cécile, voilà, c'est de réaliser une émission de radio sur Radio Présence pour parler de son métier et de la manière de vivre sa foi. Voilà, donc pour ça, on est en lien depuis quelques mois maintenant. Et puis ensuite, on s'est mis en lien avec Radio Présence, grâce à l'OCH aussi, voilà, donc qui nous accompagne au fur et à mesure. Et donc le but, c'était de le réaliser avant la date anniversaire de l'OCH, donc avant fin octobre.
Cécile, pourquoi c'était important pour vous justement de parler de votre métier, de votre foi sur une antenne comme celle de Radio Présence?
Alors justement, j'avais envie de parler de mon projet et de ma foi sur Radio Présence, parce que j'avais d'autres personnes que je connaissais qui sont déjà passées à la radio. Et bon, moi, je n'avais jamais eu l'occasion, je ne savais pas trop comment faire, comment procéder. Et j'avais à cœur de pouvoir le faire, pour enrichir mon expérience dans ma vie, d'enrichir mon expérience, de pouvoir partager ça avec des auditeurs, ma famille, mes amis qui m'écoutent. Et pouvoir prendre confiance en moi, en fait. Et me rendre compte que c'est un projet réalisable.
L'un de vos autres projets dans ce grand projet de passer à l'antenne de Radio Présence, ça va être votre métier, de votre foi, c'était celui de jouer de la flûte, de la flûte à bec. On va vous entendre dans quelques instants. Quel morceau vous avez choisi?
Alors j'ai choisi de jouer la première en chemin.
Un chant à Marie.
Un chant à Marie, voilà. J'avais d'autres chants en tête, mais je trouve que celui-là, il est très adapté parce que Jésus nous accompagne et il y a également Marie, la Mère de Dieu, qui est présente, qui veille sur nous. C'est pour ça que j'ai choisi de jouer la première en chemin. Et puis, je pense que c'est connu, c'est un chant assez connu, donc tous les gens qui m'écoutent et tous les auditeurs qui connaissent ce chant pourront le fredonner en écoutant, voilà.
Et bien justement, on vous écoute.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Cécile Burali et Marin Perrier pour parler, dans cette deuxième partie d'émission, de la foi des personnes en situation de handicap. Cécile, vous l'avez dit tout à l'heure, je reprends vos mots, j'ai la foi, vous êtes chrétienne, d'où elle vous est venue cette foi, transmise peut-être par vos parents?
Alors en fait, disons que ma foi chrétienne... au début, j'avais suivi des cours de catéchisme, mais j'ai pas trop suivi longtemps, mais c'était très peu. Après, ça avait pas trop, j'avais pas continué. Je crois que c'était quand j'étais en CM2, il me semble, quand j'étais à Balma. Et après, ça avait pas trop plu. Puis après, je suis restée longtemps sans. sans m'intéresser à la foi chrétienne. Et puis après, j'ai connu des amis qui allaient à la messe régulièrement, enfin, qui vont toujours à la messe, tout ça. Et après, ils m'ont proposé, on a discuté, tout ça. Et puis, je les ai suivis un petit peu pour... de temps en temps, je les avais suivis pour la messe, tout ça. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la prière, tout ça. Et puis, quand je les ai connus, j'étais à l'Institut catholique. Et avant d'aller à l'Institut catholique, je suis allée à Sainte-Marie-des-Champs avant. J'étais au lycée Sainte-Marie-des-Champs, après j'étais à l'Institut catholique. Et c'est comme ça que j'ai essayé de grandir dans la foi chrétienne. Après, je fais partie de... Et ça m'a convaincue pour, de temps en temps, faire partie de certains groupes. Quand je suis disponible, je vais, occasionnellement, je participe à des groupes comme Bartimée ou les Sœurs de la Bonne Nouvelle. Mmh. Bartimée, c'est un groupe à Castanet. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir plusieurs groupes, mais tout en étant indépendant, parce que la foi chrétienne, ça appartient à chacun. Moi, je suis assez indépendante, c'est-à-dire que je ne vais pas nécessairement faire quelque chose... parce qu'on me le propose, quoi. Je vais faire quelque chose plus en fonction de ce que je souhaite. Alors, le lundi de Pentecôte, j'ai eu l'occasion d'aller à la messe à Saint-Exupère. Mmh. Voilà. Je ne vais pas tout le temps à la messe. Je ne vais pas tous les dimanches à la messe. J'y vais quand j'en ai l'occasion ou quand j'en ai envie, tout ça. Je ne suis pas prête pour l'instant à faire ma communion. Mmh. Mais... Parce que bon, c'est pas, pour l'instant, c'est pas mon souhait. Je n'ai pas fait ce choix-là. Après, je respecte les gens qui ont fait ce choix-là. Mais je me fais bénir lors des messes, au moment de la communion, je me fais bénir. Voilà. Mmh. J'ai l'habitude de faire comme ça. Je ne prends pas l'hostie, évidemment, parce que je suis baptisée. J'étais baptisée quand j'étais petite, donc je suis baptisée, bien sûr. Mais je n'ai pas fait ma confirmation ni ma communion. Mmh. Voilà. Pour l'instant, ça reste comme ça.
Comment justement votre foi chrétienne, elle vous aide à surmonter votre handicap?
Alors, ma foi chrétienne, elle aide à surmonter le handicap parce que justement, ça me permet de savoir qu'il y a le Seigneur qui m'entend, qui m'écoute et qui comprend mes difficultés et qui permet que quand il y a des choses qui sont difficiles dans mon quotidien, ça me permet d'aller de l'avant et de voir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui entend, qui entend ce dont on a besoin, ce qu'on aimerait qu'il s'accomplisse. Alors des fois, on lui demande des choses au Seigneur, mais il accomplit les prières, mais pas tout de suite. Des fois, ça peut attendre Des fois, on peut attendre longtemps, comme on peut attendre de suite, ça dépend.
Est-ce que vous avez justement en tête une prière que vous avez récemment faite et qui a été exaucée par le Seigneur?
Oui, pour avoir le téléphone, mon nouveau téléphone.
C'est un téléphone qui vous aide à communiquer avec vos amis, votre famille, et qui est adapté à votre handicap.
Voilà, c'est un téléphone, ça fait un an que j'attendais la MDPH. Alors, je précise pour les personnes qui écoutent la MDPH, ils mettent au moins un an pour... quand on leur demande les choses, alors donc il faut être patient quand vous demandez des téléphones adaptés. Il faut être patient quand vous avez un handicap, vous ne pouvez pas l'avoir de suite, quoi. Alors ça dépend des MDPH. La MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Et donc donc ça a mis quand même pas mal de temps. Donc oui, j'ai prié pour ça. Et puis par rapport à... Aussi, je prie pour que ça se passe bien dans ma vie. Alors... je voulais évoquer les endroits. Donc j'ai parlé de Bartimée, qui est un groupe à Castanet. Donc eux, normalement, ils le font une fois par mois. Moi, j'y vais donc quand je suis disponible, selon ma disponibilité. Voilà. Je vais également de temps en temps à la prière avec des sœurs de la Bonne Nouvelle. Et je vais également J'ai participé, ah oui, que je voulais dire aussi très important, aux 10 ans de la diaconie, au printemps de la diaconie.
En mai dernier.
Pardon ?
Au mois de mai dernier.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Au mois de mai 2023, dans lequel j'ai réalisé un atelier de musicothérapie. Il y avait 20 personnes, donc ça s'est bien passé. Et j'avais été aidée lors de cet atelier d'un ami qui m'accompagne, voilà. Donc,
Est-ce que quand vous priez, vous posez la question au Seigneur de pourquoi moi ? Pourquoi je suis non-voyante de naissance ? Pourquoi j'ai tant d'obstacles dans ma vie ? Pourquoi c'est compliqué de vivre avec un handicap comme celui-ci dans notre société aujourd'hui en France ? Est-ce que vous n'avez pas continuellement cette question du pourquoi moi qui revient ?
Non, je ne suis pas trop. Excusez-moi, je me suis pas vraiment posé cette question, mais c'est vrai que des fois, ça m'arrive ça dans des situations où des fois je suis en difficulté par rapport à ma vie quotidienne. Des fois, je dis pourquoi c'est toujours moi qui suis en position.
En difficulté,
et pourquoi ça tombe sur moi et que ça ne tomberait pas sur d'autres personnes. Par contre, excusez-moi, j'ai oublié de rajouter quelque chose concernant les groupes auxquels je participe, la PPH, la pastorale des personnes handicapées. Ça, il m'avait proposé aussi de participer à des réunions. Il y avait la journée des aidants, je me souviens que j'avais participé à ça l'année dernière. La journée du handicap, c'était au mois de décembre. Et après, il y avait une réunion où j'ai participé également au mois de juin dernier. C'était la réunion de clôture au Carmel. J'ai pu aller au Carmel. Et ça, ils ont proposé... qu'est-ce que c'était ? Oui, ils ont proposé une réunion pour parler un petit peu du projet de la pastorale des personnes handicapées.
Vous faites partie de beaucoup de groupes, justement. Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Qu'est-ce que ça m'apporte ? Ah oui, alors donc ça m'apporte également d'évoluer différemment selon les groupes auxquels j'appartiens. Bon, j'y vais occasionnellement, mais ça me permet aussi de pas toujours perdre à l'esprit qu'on peut grandir en foi chrétienne et que ça me permet aussi de pouvoir rejoindre aussi d'autres personnes qui font partie de ces groupes, des amis, des gens que je connais aussi moins, parce que il y a des gens que je connais plus ou moins bien, il y a des gens que je connais bien, ça dépend de relationnel que j'ai avec les uns et les autres, mais en général je retrouve aussi des gens avec qui je suis habituée de communiquer, d'être en contact, et puis je retrouve aussi d'autres personnes que je ne vois uniquement que dans ces groupes là. Ça dépend aussi de... Parce que ça dépend des affinités que j'ai avec les uns et les autres. En fait.
Oui. Est-ce que vous avez l'impression que l'Église laisse justement assez de place aux personnes en situation de handicap ?
Alors, l'Église... Alors, l'Église laisse assez de place...
Est-ce qu'il y a assez de propositions ? Est-ce qu'ils sont assez intégrés ? Quel est votre sentiment sur ces questions-là ?
Des fois, par exemple, on est assez intégré, c'est vrai que l'Église, c'est vrai qu'on est intégré de pas mal de choses, mais par exemple, c'est vrai que si on vient régulièrement, on serait peut-être plus intégré que si on vient de temps en temps, ça dépend de comment les projets, mais on est intégré parce qu'on nous propose, certains projets. On nous propose des choses, mais après, c'est vrai que c'est à nous de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Ça dépend de selon ce que... selon nos intérêts aussi, quoi. Moi, par exemple, je m'intègre. Après, c'est vrai que comme je l'explique, je ne suis pas toujours disponible pour aller à chaque fois qu'il y a un groupe ou quelque chose. Donc, c'est vrai que... ça dépend comment ça peut être vécu par le groupe, mais la plupart du temps, oui, on est intégré. Après, c'est à nous de faire nécessaire si on a envie d'être convié ou pas, d'y aller ou pas. Et aussi, moi, j'avais le projet de... Enfin, j'ai déjà été, pardon, à Incalcat. Ça m'est arrivé dans mon passé, mais il y a longtemps de ça. C'est quand j'étais plus jeune avec le... Je crois que c'était avec la... Je sais pas si c'était pas avec le lycée ou quoi, monastère. Et après, j'avais été à Lourdes. J'ai eu été à Lourdes plusieurs fois. Enfin, pas souvent, hein, peut-être deux, trois fois. Mais... Et après, j'avais l'intention de faire un pèlerinage et une retraite, mais pas forcément tout le temps. C'est pas un week-end entier, par exemple. Ça pourrait être sur une demi-journée, s'il existait des choses. Ça m'intéresserait, voilà, de faire ça, mais à l'occasion, quoi. Pas forcément régulièrement non plus, mais voilà.
Marin, qu'est-ce que ça vous inspire, justement, le témoignage de Cécile sur sa manière de vivre sa foi au quotidien?
Alors moi, je vous avoue que ça remue beaucoup de choses. Tout d'abord, j'admire sa force et son courage de s'investir dans autant d'organisations différentes, d'avoir autant d'activités. Ce que je retiens de Cécile, c'est surtout son engagement, comme elle vient de nous en parler, donc justement dans toutes ces organisations, et puis surtout le fait que justement elle garde sa foi et chemine à son rythme. Mais voilà, elle décroche pas, et ce que j'admire par-dessus tout, c'est justement le fait, comme elle vient de nous le dire, qu'elle ne se pose pas ou très peu la question du « pourquoi moi ?» à laquelle on pourrait s'attendre, et à laquelle parfois, même sans être handicapé, on est confronté. J'avoue qu'en fait, cette rencontre, c'est plus qu'une relation humaine pour faire, pour donner naissance à ce projet. C'est aussi quelque chose qui remue intérieurement, et c'est aussi ça que je trouve beau dans la relation, justement, entre personnes non handicapées et personnes handicapées.
Justement,
par contre, excusez-moi, je m'engage pas régulièrement. Alors, je m'engage, oui, mais je m'engage selon mes disponibilités.
Ce que vous voulez expliquer, Marin, c'était aussi que vous êtes présent dans de nombreux groupes, et que dès qu'il y a une opportunité pour aller rencontrer de nouvelles personnes et vous investir pour l'Église, vous le faites.
Alors,
en fonction de vos disponibilités.
Voilà, pas forcément à chaque fois qu'il y a l'opportunité. C'est vraiment en fonction au cas par cas, en fonction de mes disponibilités. C'est pas parce que, voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas parce qu'un groupe le propose régulièrement que moi je...
Oui, en tout cas, vous êtes investi dans l'Église, et c'est beau à voir. Justement, Marin, on est sur le point de conclure cette émission. Comment arriver à changer notre regard sur les personnes en situation de handicap?
Alors c'est une bonne question. En fait, justement, ce que m'a appris aussi ce projet, puisque j'ai été pendant plusieurs mois en contact avec Cécile, en fait, c'est de d'abord voir la personne avant de voir l'handicap, puisque pour nous qui sommes voyants, on a tendance à tout de suite voir ce qui ne va pas chez les autres. Et donc voilà, j'ai appris à voir la personne, à connaître la personne, et en fait à faire du handicap finalement qu'une... C'est quelque chose qui fait aussi partie de la personne, mais ce n'est pas ça qui la résume. Et en fait, finalement, j'ai appris à aimer les personnes handicapées en général plus qu'avant, et surtout à aimer leur personnalité, à aimer leur qualité avant de voir leurs défauts ou les imperfections.
Cécile, une dernière question. Si vous aviez un message à faire passer à tous les auditeurs qui nous écoutent, quel serait-il ?
Que c'est pas parce que... Alors, le message que je voudrais faire passer aux auditeurs, c'est pas parce que on est handicapé qu'on peut pas faire grand chose de sa vie. On peut aller de l'avant avec à notre rythme. On n'est pas nécessairement obligé de faire forcément tout ce que les autres veulent nous demander, mais on peut garder soi-même sa manière d'être, même en tant qu'handicapé, on peut garder sa manière d'être. On peut aussi s'inspirer du conseil des conseils des uns et des autres. Certes, il y a des choses qu'il faut surmonter, des épreuves de la vie, c'est pas toujours facile C'est pas toujours facile quand le fait d'avoir un handicap, mais c'est surmontable. Enfin, moi, je trouve, de ce que je vis actuellement, c'est surmontable. On peut passer par des phases pas toujours évidentes, mais on arrive quand même à aller de l'avant, à s'affirmer au niveau de sa personnalité. Voilà. Et il faut éviter de... Il ne faut pas avoir peur de... comment dire ça, de ne pas se laisser faire. Il faut se battre, il ne faut pas avoir peur de ne pas se laisser faire. Du fait qu'on est handicapé, on peut pas réagir. Non, ça, c'est pas vrai. On peut réagir à notre manière, puisqu'on n'a pas la vue. Ben, il faut réagir à notre manière. Et de ne pas laisser s'installer des choses qui pourraient être difficiles après à résoudre. Il faut, soit il faut en parler, ou si on ne peut pas en parler, ben, il faut trouver soi-même la solution comme je vous dis, de ne pas baisser les bras. Il faut autant que possible garder le moral et rester positif vis-à-vis de son handicap, parce qu'on a besoin des autres, certes, mais on peut quand même arriver à soi-même à se débrouiller aussi. Donc,
à se débrouiller seul.
En fonction de nos acquis. Donc on a besoin des autres, mais on n'a pas forcément que nécessairement besoin des autres. Au quotidien, moi, je vis seule. Ce que j'ai pas dit à l'émission, c'est que je vis seule en appartement.
Et oui.
Et pour ça, j'ai appris les techniques, tout ça. Mais
rester positif, voilà. Garder la foi et garder l'espérance, c'est ce qu'on retiendra en tout cas de votre témoignage. Avant de clôturer cette émission, Cécile, peut-être donner un moyen pour les auditeurs de vous contacter, ceux qui ont été touchés par votre témoignage.
Oui, alors ceux qui ont internet peuvent me contacter par Facebook.
Avec votre nom, Cécile Burali.
Avec mon nom, ouais, Cécile. Le prénom est Burali et
Burali.
Voilà.
Et voilà. Et comme ça, les gens vous contactent sur Facebook. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les deux, Cécile Burallier et Marin Perrier, d'avoir participé à cette émission. On est en tout cas très heureux à Radio Présence d'avoir participé à la réalisation de votre rêve, Cécile, qui était de passer à l'antenne et de jouer de la flûte à bec, de parler de votre foi et de parler de votre métier de musicothérapeute. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Merci encore à tous les deux et passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.